Cube Radio. Vous l'avez vu? Vous l'avez lu? Maintenant, entendez-le. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer, le guide de l'auto. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto, édition du 6 novembre 2021. Oui, on a sauté une semaine. Germain, peut-être qu'on peut expliquer ce qui s'est passé.
Oui, bonjour Antoine. Effectivement, la semaine dernière, au moment de l'enregistrement de l'émission, eh bien, il y avait un incendie à proximité du studio d'enregistrement au centre-ville de Montréal. Et l'incendie a causé une interruption du service d'Hydro-Québec. Donc, sans électricité, c'était bien difficile pour nous d'enregistrer l'émission. On avait débuté l'enregistrement des premières minutes avec notre invité, d'ailleurs, qu'on va recevoir un peu plus tard aujourd'hui, Pierre-Luc Mercier, expert Corvette dans une concession au Québec. Et on a été obligé d'interrompre l'exercice pour mieux le reprendre cette semaine.
Bon, alors, partons de là. Quelques actualités sur des produits qui, je pense, vont intéresser beaucoup de gens. Mitsubishi Outlander, qui a dévoilé son Outlander, PHEV. Le nouveau Outlander que vous connaissez, basé sur le Nissan Rogue, mais cette fois hybride rechargeable, et c'est drôlement plus sérieux que ce qu'on nous sert actuellement avec la vieille génération.
Oui, donc on arrive avec une deuxième génération de produits pour 2023 qui devrait arriver en cours d'année 2022. Bon, tu avais mis à l'essai récemment, si je me trompe pas, une version de la première génération et demie. Hein? Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, qui avait un petit peu plus d'autonomie. Là, malheureusement, pour le moment, on n'a que les cotes d'autonomie européenne. Mais bon, on nous annonce 87 km, donc ça devrait être un petit peu plus conservateur pour l'Amérique du Nord. Mais et la bonne nouvelle, c'est que comme
87 km d'autonomie, oui. C'est mieux que tout le monde là.
Oui, mais c'est les données européennes là, donc ce sera pas 87.
Mais on peut s'attendre à un 65-70 là, quelque chose.
Oui,
comme ça.
Oui, ça devrait ressembler au Toyota RAV4 Prime par exemple là, qui va être son plus grand rival, j'ai l'impression.
Ben, oui, parce que le RAV4 Prime actuellement, c'est non seulement un véhicule qui bénéficie d'un avantage fiscal dû au fait qu'on a une batterie plus grosse que la moyenne, ce qui explique qu'on ait un crédit gouvernemental de 13 000 $ applicable. C'est celui qui offre 65-70 km d'autonomie. Là,
confortablement.
C'est ça, en mode 100% électrique. Mais en même temps, ce véhicule-là, bon, il se fait attendre. C'est deux ans et demi d'attente. C'est une garantie de base. C'est des taux de financement quasi usuraire.
Oui, mais en même temps, on est quasiment seul.
Bien, on est quasiment seul, sauf que là, c'est ça. Avec Mitsubishi qui revient...
L'Escape est débarqué dans les dernières semaines, finalement, avec une version hybride rechargeable. Ouais. Mais on doit se contenter de version traction. Alors que là, avec l'Outlander, on a le système à quatre roues motrices, ce qui est un atout intéressant. Et tu parlais de subvention. L'Outlander va avoir une batterie de 20 kWh, ce qui le rend éligible aux subventions, comme le RAV4 Prime. Reste à voir si les
subventions demeureront
en vigueur d'ici l'arrivée du véhicule, parce que on a eu les détails en lien avec ce véhicule là ouais. Mais il n'arrive pas demain matin en concession, donc ce sera
la grande question. La grande question, c'est est-ce que Mitsubishi va, excusez-moi l'expression là, mais branler dans le manche comme ils ont fait avec la première génération, nous faire languir 2, 3, 4 ans avant de finalement arriver avec un produit.
Combien d'années avant que le produit arrive, on le voyait déjà au Salon de l'Auto de Montréal.
Ben, c'est pas compliqué,
dans une version tronquée, là, une version scindée au centre. Là,
moi, je me souviens très, très bien d'avoir vu les premières esquisses de ce véhicule-là début 2014, et c'est finalement en 2017 qu'on nous l'a servi.
Ça a été très long.
On nous l'a servi en 2017 avec la motorisation qu'on avait en 2014, alors que l'Europe avait déjà eu droit à une upgrade au côté motorisation. Upgrade à laquelle on a eu droit uniquement en 2021 chez nous.
Oui, oui, oui.
Mais c'est là, mais c'est gênant.
Et bon, là, le moteur, petit mot, le moteur à essence sera le 4 cylindres 2.4 litres, là, qui est bien connu et peut-être même trop bien connu chez Mitsubishi.
Donc, on conserve cette même motorisation-là.
Intègre. Donc, pas de grandes innovations de ce côté-là. Et moi, ce que j'ai bien hâte de voir, c'est est-ce que le Rogue offrira une version équivalente de l'Outlander PHEV? Parce qu'on sait qu'essentiellement, c'est le même véhicule.
C'est le même véhicule, mais là, on n'a pas la même motorisation.
Non.
Et je ne suis pas certain que Nissan va vouloir adapter une motorisation Mitsubishi. Enfin, ça va être intéressant de regarder ça aller. En attendant, il ne faut pas non plus oublier que Hyundai et Kia ont eux aussi leur VUS hybride rechargeable récemment débarqué sur le marché. Sorento, Santa Fe, Tucson également. Et Kia qui va arriver évidemment avec le Sportage dès 2023. Et c'est une excellente transition
pour parler du
Sportage 2023, Germain.
Oui, on a assisté à une petite présentation de Kia, mais Kia aux États-Unis. Donc, il y a certains détails qui sont différents pour le Canada. On nous a d'ailleurs dit que le Sportage de nouvelle génération allait être construit aux États-Unis, mais pas pour le Canada. Donc, les unités vendues au Canada vont continuer d'être assemblées en Corée.
Okay.
Donc, petite nuance intéressante. Donc, j'ai hâte de voir peut-être l'écart de prix entre les versions américaines et les versions canadiennes, parce qu'évidemment, ça va être plus coûteux de faire venir les véhicules de Corée plutôt que de les assembler directement aux États-Unis, on peut imaginer. Mais on a été avare de détails concernant les mécaniques. On nous a parlé du 4 cylindres 2.5 litres exclusivement, mais on sait très bien qu'il va y avoir des versions hybrides et hybrides rechargeables qui vont suivre, peut-être même des versions turbo-compressées éventuellement, parce que pour le moment, on nous a rien dit de plus et on devrait avoir plus de détails au Salon de l'auto de Los Angeles.
Si
Salon de l'auto de Los Angeles, il y a. Donc, ce sera intéressant à suivre. On nous a présenté une version X Pro aussi, qui n'existe pas pour la génération actuelle, qui mise un petit peu plus là, sur le côté, et là, j'ouvre de très grands guillemets, sur le côté aventurier du véhicule. On s'entend, là, c'est pas un Jeep Cherokee, là, loin de là. Mais on ne l'aura pas pour le Canada, donc on ne s'emballera pas trop vite avec ça.
Donc, Kia qui n'avait pas grand-chose à dire.
Je te le confirme.
Toyota a finalement dévoilé son premier VUS électrique qui sera vraisemblablement fabriqué en collaboration avec Subaru.
Oui, hein, parce que le Solterra, hein, qu'on verra bientôt, devrait partager là bien bon nombre de ses composantes avec le BZ4X.
Ça n'a aucun sens, là.
J'aimerais qu'on lui trouve un nom normal.
Mais qui est le génie qui a pensé à un nom comme ça?
Bien, en fait, on dit que les lettres BZ hein, signifient Beyond Zero. Et ce sera une nouvelle sous-marque de Toyota. On a encore le temps de changer d'idée, là. Il n'est pas trop tard.
Moi, je te dirais, changez donc d'idée tout de suite.
Oui.
BZ4X, ça me rappelle...
Les Cavaliers Z24?
Non, mais tu sais, à une certaine époque, tu te souviens de Subaru qui avait lancé le B9 Tribeca. Oui. Pourquoi B9? Pourquoi?
On s'est posé la question, puis à un moment donné, on l'a enlevé.
Oui. C'est ça, ou la XV Crosstrek, qui est devenue la Crosstrek,
Et personne n'appelait ce véhicule-là le XV Crosstrek.
Non,
là,
c'est ça. Toyota, là, tu sais, un nom, Camry, Corolla, ça marche, tu sais.
Oui.
Ramener le nom Starlet, je ne le sais pas.
Je ne le sais pas.
Tercel.
Oui, je ne suis pas sûr.
Etercel, il me semble que ça marche.
Non.
Je ne sais pas.
Il est peut-être encore un peu tôt là, pour ramener le nom Tercel.
Le Cross Cressida, tiens.
Ah, tu vois? C'est...
Si jamais vous voulez des idées, là, appelez-moi.
Oui, les stratèges de Toyota sont à l'écoute.
Oui, c'est ça.
Donc, pour l'autonomie, hein, parce que c'est la donnée que tout le monde veut connaître. On n'a pas, et là j'ai l'impression que je me répète, là, on n'a pas les données pour l'Amérique du Nord, mais avec les normes européennes, on est à 460 là, kilomètres. Entre 460
ce qui veut dire
et 500.
350.
Oui, ça va ressembler à ça.
Puis dans quelle sphère de type de véhicule on se retrouve? Est-ce que c'est un format RAV4? Est-ce que c'est un format un peu plus gros? On joue contre quoi avec ça?
Mon intuition, c'est qu'on va aller rivaliser directement avec le nouveau segment segment de véhicules électriques. Et là,
Mustang Mach-E.
Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Volkswagen ID4 et compagnie là, qu'ils ont tous la même forme d'œuf, là, grosso modo. Et,
ben, sauf l'Ioniq 5, qui a une forme de...
d'un œuf aplati. Ouais, mais c'est une autre histoire.
On nous parle d'une tournée.
On nous parle d'une version à un seul moteur à l'avant, hein, parce que les deux existent dans le segment. Et une version à quatre roues motrices. Donc, ce sera intéressant à suivre avec des batteries là, de 80 et 160 kW.
Cette semaine, le sujet à l'émission Rouleau suivant que vous pouvez écouter sur toutes nos plateformes et sur TVA Sport, c'est samedi 11h. Ben, c'est pas une voiture électrique exactement. On est plus dans
et c'est très correct comme ça.
On est plus dans la grande tradition automobile. En fait, on vous présente une Mercury Grand Marquis qu'on remet en condition et qu'on donne à un jeune chauffeur d'autobus scolaire parce qu'on s'est dit que s'il était capable de conduire un autobus scolaire, il serait capable de conduire une Grand Marquis. Et c'est pas tout le monde qui veut conduire une Grand Marquis aujourd'hui en 2021.
Ben moi, oui.
Oui. Mais écoute, l'histoire de cette auto-là, elle est fascinante. Alors, je me retrouve chez Kenny Youpool, qui est un centre de recyclage, et j'aperçois cette voiture-là qui vient d'arriver. Et on me dit que la voiture, ben, c'est une succession qui l'a amenée là. La voiture dormait dans un garage depuis 8 ans, et ils ont vendu la maison et ils ont bêtement fait « Bon, ben qu'est-ce qu'on fait avec la vieille auto de papa? » Ben on s'en débarrasse, on envoie ça à la casse.
Vieille auto n'était pas si maganée que ça, là.
C'est une Mercury Grand Marquis 2008 Ultimate, donc tout équipé. La seule option qui manque, c'est le toit ouvrant. Elle a été achetée neuve en 2008. Le type est décédé en 2013. Et de 2013 à 2021, elle est restée dans le garage de la maison. Alors, je te laisse deviner en quel état sont les pneus. Il y avait quand même certains trucs à faire sur cette auto-là, mais elle n'affichait que 55 000 km au
compteur. Et en même temps, si elle a été entreposée dans un endroit relativement sec, la voiture a été, dans son ensemble, bien conservée.
Absolument.
Oui, il y a des pièces qui sont... Les freins, les pneus, tout ça, ça devait être fini, mais sinon, la carrosserie et le châssis devaient être en bon état. Là.
L'habitacle était neuf. Il n'y a jamais personne qui a pris place à l'arrière dans cette voiture-là, c'est évident. Alors, on a repris cette voiture-là, on l'a remis en condition, puis je te le dis, toute l'équipe avec laquelle j'ai travaillé sur Rouleau suivant se battait chaque fois qu'il fallait la déplacer, à savoir qui allait la conduire. Tout le monde capotait sur cette voiture-là et c'est probablement de toute la série la voiture en meilleure condition qu'on n'aura pas pu trouver. Si cette voiture-là ne dure pas encore 20 ans, je comprends pas. Elle était littéralement neuve. Alors, manquez pas ça ce week-end sur mes réseaux sociaux, Facebook, YouTube, le site du Guide de l'auto, Rouleau. Vous ne pouvez pas le manquer, c'est partout.
Ben, à peu près. Et comme tu le sais, je suis un adepte de la Grand Marquis parce que j'en possède moi-même une.
Oui.
Un modèle un peu plus vieux, là, 1983. Je ne raterai pas l'émission de cette semaine, promis.
Ça marche.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation. Antoine Joubert. Germain Goyer. Des vrais gars de char. Le guide de l'auto.
La semaine dernière, Antoine, j'ai enfin pu mettre à l'essai la Honda Civic 2022, une voiture dont on a beaucoup parlé à chaque étape là où on nous dévoilait un bout d'aile, un bout de prix, un bout de scie. Bon, mais
la
bref.
La lumière gauche, la lumière droite.
Oui, c'est ça, exactement. On est bon
le cap de roue de la version LX. Après ça, les jantes de la version EX. Après ça, les jantes de la version Touring.
Oui.
Et toutes les couleurs très excitantes qui accompagnent cette voiture-là.
Ben, c'est drôle que tu me lances là-dessus. Je vais t'en parler tout de suite. Évidemment, le modèle d'essai, la plupart des constructeurs nous fournissent le véhicule toujours le plus haut de gamme. Et dans le cas de la Civic, c'était une version Touring à près de 35 000 $ là. Et J'ai du mal à payer ou à recommander à des gens de payer 35 000 $ pour une Honda Civic. Je sais que c'est une vieille image qu'on a en tête, mais payer une somme aussi élevée pour une compacte, oui, je sais, elle est bonne et tout, mais en même temps, On n'a pas besoin d'aller dans une version touring à moteur turbo compressé pour avoir une bonne voiture entre les mains. Après, je vous dis pas de regarder une version LX parce que quand on analyse cette version-là, et tu parlais de cap de roue, de couleur existante, là,
gris, noir, blanc.
C'est gris pâle, gris foncé, noir, blanc, des enjoliveurs. À l'intérieur, c'est du tissu noir. C'est franchement ordinaire. Et on est à 26 000 $ là. Donc, ouais.
On fait tout pour niveler vers le haut.
Oui,
ce que Mazda a fait avec la Mazda 3, ce qui est bon.
Et niveler vers le haut d'une petite coche fait toute la différence. Parce que quand on va dans une version EX à 28 500 $ tu sais, on s'entend entre 26 et 28 500, il n'y a pas une grosse différence. Mais là, déjà, on a un peu plus d'équipement. On a des jantes d'alliage. On a, bref, ce que le consommateur moyen recherche. Et c'est pour moi la version la plus intéressante. Puis, son moteur à 4 cylindres de 2 litres.
Ben oui.
Pour
c'est
moi,
très bien.
Ça convient totalement. Oui, la puissance, là, je me sens entre guillemets, là, du 1.5 turbo est intéressante, mais le 2 litres suffit amplement.
Absolument.
Mais il faut endurer la CVT.
Oui, puis ça, je veux dire, c'est vrai pour bien d'autres modèles
dans
le segment.
Pour bien d'autres modèles,
c'est la Corolla, la Sentra, bon.
Et là, entre tout ça, il y a la version sport aussi, qui avec l'arrivée de la SI, qui va être une version similaire. Je sais pas comment on va replacer ça. Là.
Ben la version sport, en fait, c'est plus esthétique qu'autre chose,
oui.
Parce que dans le fond...
Oui, mais on a le 1.5 turbo.
Ben la version sport n'a pas le 1.5 turbo. La version sport conserve le moteur.
Le 2 litres?
Conserve le 2 litres et c'est que la Touring qui a le moteur 1.5 turbo.
Ah, ça, c'est dommage.
Alors, la version turbo, c'est ça. C'est que la Touring avec la boîte CVT. Et si on va dans les versions hatchback, là, c'est différent.
Oui.
Donc, c'est ça.
Mais, la version hatchback que tu as pu conduire, d'ailleurs.
Oui, et j'ai pu la conduire en version Touring, justement, boîte manuelle, parce qu'elle n'est plus disponible, la boîte manuelle, dans la Civic berline. Ça aussi, c'est dommage. Mais en même temps, marché n'était pas là.
C'est une clientèle qui est peut-être de plus en plus restreinte.
Mais on vendait, dans le cas de la berline, quand même 12 % de boîtes manuelles. Alors, 12 % de 50 ou 45 000 voitures, c'est quand même quelque chose.
Mais est-ce que ce sont des gens qui n'achèteront plus de Honda Civic, étant donné qu'il n'y aura plus de boîtes manuelles? C'est une bonne question. Et à l'inverse, chez Toyota, on continue de travailler très fort pour continuer d'offrir la boîte manuelle. Donc, on nage pas dans le même sens là, chez Toyota et Honda.
Non. Mais tu vois, je reviens sur ce que tu disais au début. Tu as de la misère à imaginer quelqu'un qui paierait 33 000, 35 000 $ pour une voiture compacte. Moi, je trouve que c'est très pertinent. Je trouve justement qu'il est temps que les acheteurs réalisent que ce format de voiture-là, il est pratique, il est correct comme ça. Ça explique d'ailleurs pourquoi les grandes berlines ou les intermédiaires, qu'on appelle intermédiaires, mais qui sont rendus des grandes berlines, il y a un désintérêt total pour ça. Il se vend encore un peu de Camry, un peu d'accord, mais bonjour, si tu es chanceux, si tu croises un gars qui a l'intention de s'acheter une Malibu demain matin.
Oui.
Alors, tout ce segment de voiture-là est en forte dégringolade. Nissan a renouvelé son Altima il y a quelques années. Il n'y a pas un chrétien qui achète ça, là.
Non.
Je veux dire... Et pourtant, c'est loin d'être une mauvaise voiture, mais c'est inutilement gros pour ce que ça a à offrir. C'est une voiture qui n'est pas pratique. Les gens qui veulent avoir plus gros vont passer un VUS, un multisegment, une familiale. Bon,
je veux bien que la Civic Touring soit pratique, mais la EX, c'est pas moins pratique, là.
Non. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux vouloir du luxe, tu peux vouloir un certain niveau de confort, de raffinement, mais en conservant un format. Et c'est une formule typiquement européenne. Mazda en cette même voie-là avec la Mazda 3, c'est sûr que ça se vend moins.
Oui, on n'a pas gagné notre pari non plus
Mazda
là,
n'a
avec
pas
la
gagné
Mazda 3. Là.
Mais je pense que le problème de Mazda se situe ailleurs aussi.
Oui, mais en même temps, on a des mécaniques intéressantes. On
c'est
a
ça.
Le rouage intégral, on a tout sur la table.
On arrive avec une Civic cette année qui n'est pas révolutionnaire, certainement pas, mais qui est drôlement plus raffinée que par le passé et qui offre un comportement certainement plus intéressant. Et qui a mon avis, est pas mal plus jolie parce que j'ai toujours trouvé l'ancienne génération franchement laide. Ça, c'est un goût personnel. Faut croire qu'il y a bien des gens qui sont pas d'accord avec moi parce qu'ils en ont vendu pas à peu près. Mais je pense que Honda a un produit intéressant qui va conserver une bonne valeur et le fait qu'on demande plus cher que chez la compétition, parce qu'on est plus cher qu'une Corolla, on est certainement plus cher qu'une Sentra, c'est un peu justifiable de par la qualité, de par la réputation, mais faudrait aussi qu'on nous amène des nouveautés technologiques sur le plan mécanique, ce qu'on n'a pas fait. Pas d'hybridation, rien de ça. Et ça, ça manque dans la gamme Civic.
En même temps, on a coupé l'Insight. Là, on s'attend à ce qu'une Civic hybride s'en vienne. Là.
Je sais pas. T'es-tu sérieux? Parce que moi, je le sais pas. Honda, ça fait 4 fois qu'on se plante avec des voitures compactes hybrides. Là. Pas 1 fois, 4 fois. Ça n'a jamais fonctionné.
Ouais.
Puis en plus, on a tout fait pour pas en vendre. Alors, est-ce que... puis il faudrait qu'on fabrique une Civic hybride au Canada pour qu'on puisse la vendre chez nous. Parce qu'on
que le CRV, ben c'est ça
ben,
aussi.
C'est
là.
Ça. Fait que faudrait vraiment que Honda prenne une direction autre que celle qu'on a actuellement. Là, on a confirmé le retour de la SI avec un moteur de 200 chevaux, très décevant. Elle va peut-être être jolie, elle va peut-être être fun à conduire, mais à 200 chevaux...
Prends-tu une GTI pour le même prix ou non?
Question, on se pose même pas.
Ben, voilà.
Puis expliquez-moi comment ça se fait qu'on n'a pas une version SI hatchback, s'il vous plaît.
Ouais.
Parce qu'on nous amène une version sport hatchback à boîte manuelle 180 chevaux, mais la SI demeure que pour la berline. C'est quoi cette idée-là?
On a vraiment brassé les cartes pour ce qui est de la composition de la gamme. Hein? De la 10e à la 11e génération, il y a beaucoup de nouveautés et d'incohérences.
Oui, c'est ça. Ben, moi, je pense que ça aurait été très pertinent d'offrir une SI d'abord dans la version hatchback, mais aussi d'offrir une SI avec une boîte séquentielle double embrayage.
Oui.
Là, on n'a que la boîte manuelle, puis on sait que le bassin d'acheteurs de voitures à boîte manuelle n'est plus là. Je veux dire, du GTI, c'est 65 % des ventes, une boîte DSG, là.
Ben oui, alors, c'est considérable.
Alors, puis on a une dans le catalogue Honda, en plus, une bonne boîte séquentielle qu'on utilise encore dans l'ILX. Pourquoi ne pas la greffer à la Civic SI? Je ne sais pas pourquoi. Mais bref, on n'a pas fait tous les efforts qu'on aurait dû faire, mais la voiture en tant que telle s'est énormément améliorée. Maintenant, ce n'est plus l'aubaine que ça a déjà été. Et quelqu'un qui cherche une aubaine dans ce segment-là actuellement, il faut se tourner soit chez Hyundai avec l'Elantra ou la Forte, ou encore Nissan avec la Sentra qui a quand même un produit sérieux.
Oui, la Sentra est intéressante, mais sinon la Civic demeure, à mes yeux, un produit de meilleure qualité dans l'ensemble.
Oui, et qui va sans doute mieux vieillir.
Mieux vieillir, voilà. Ouais,
voilà.
Donc, pour du long terme, c'est définitivement la Civic. Dans un tout autre registre, tu as aussi conduit la BMW M4 ces derniers jours.
Oui, M4 compétition.
Ah, pardon.
Et j'insiste sur le mot compétition parce que j'avais pu conduire la berline M3 à boîte manuelle il y a quelques semaines. Et là, j'ai pris le volant du coupé M4 boîte séquentielle avec l'ensemble compétition. Les sièges de carbone ultra rigides, la suspension en béton. C'est une voiture qui est conçue pour la piste, qui offre des performances ahurissantes. C'est une M4, mais aux stéroïdes, là, carrément, mais complètement mésadapté pour la route, là, mais complètement désagréable au quotidien. Moi, c'est un monde de différence entre la M3 que j'ai pu conduire régulière, si tu me permets, et la M4 en mode compétition. Jamais tu me vendrais une version compétition, à moins que je veuille faire de la compétition, à moins que je veuille faire du circuit.
Et c'est pas nécessairement le cas de toute la clientèle.
Ben,
là.
Moi, je suis persuadé que les gens vont s'acheter des compétitions pour flasher, pour dire qu'ils ont le badge versus la M3, mais en réalité, quand je vais croiser quelqu'un qui a une compétition sur la route, je vais savoir que lui, il a un rendez-vous hebdomadaire chez son chiro, que la M3 ben, ou la M4 non compétition, c'est un équilibre drôlement plus intéressant en ce qui me concerne. Non, ce n'est pas aussi pointu que la version compétition pour faire du circuit, mais en même temps, toutes les concessions que tu dois faire pour circuler sur nos routes à nous avec cette version-là, ça n'a pas de bon sens. Alors moi, autant que j'ai adoré la M3 boîte manuelle, et au passage, il faut que je te dise que la boîte séquentielle qu'on retrouve dans cette M4-là, elle est géniale.
Okay.
Elle répond drôlement plus rapidement que ce que j'ai pu constater, par exemple, sur une AMG. Alors ça, j'ai bien aimé. C'est une boîte qui est vraiment au point. Je choisirais quand même la manuelle parce que tu sais que j'aime ça, personnellement. Mais c'est une boîte qui est vraiment, vraiment au point. Maintenant, j'irai jamais à la compétition. Bon, c'est sûr que la version qu'on avait, les sièges, c'est une coquille de carbone au complet.
C'est radical.
C'est radical et c'est inutilement radical dans le contexte dans lequel on se trouve. Faut vraiment vouloir faire du circuit. Puis encore, quelqu'un qui veut faire du circuit ne cherche pas...
Série 2, là.
Non, mais... pas nécessairement. Mais ne cherche pas le niveau de luxe qu'on retrouve là-dedans. Parce que des sièges en coquille de carbone comme ça, avec un cuir de haute couture, c'est pas nécessairement... Tu sais, c'est beau, ça flash, mais quand tu prends place à bord, tu sais que tu veux pas passer 2 heures là-dedans. Là.
Mais une série 2 serait plus agile sur un circuit, non?
Pas nécessairement, parce que c'est vraiment... Non, ouais. Non parce qu'une M4, c'est plus gros, oui, mais c'est pas encore trop gros.
Okay.
Et c'est une voiture qui est vraiment rasoir et qui est drôlement plus puissante et performante. Là. Alors, la M4, ça demeure une sacrée machine de performance, que ce soit ou non une version compétition, mais la compétition sur un circuit a un edge de plus, mais a aussi ce gros inconvénient de te faire souffrir au quotidien si c'est une voiture que tu utilises sur la route. Alors, chapeau à BMW d'avoir su développer une voiture de haute performance, franchement impressionnante, mais je resterai dans la version non compétition.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Le guide de l'auto. Avec Antoine Joubert et Germain Goyer.
On a assisté, Germain, récemment au dévoilement en ligne d'une voiture qui était très attendue, la nouvelle Chevrolet Corvette Z06 2023.
Et on dirait que depuis qu'on l'a vue, elle est encore plus attendue, là, parce qu'on n'a pas été déçus du tout lors de son dévoilement. Là.
Non, puis tu sais, c'est drôle parce qu'on dévoile ça, mais parallèlement, on dévoile un paquet de nouveautés électriques. Fait que GM est vraiment à la croisée des chemins où on peut encore faire des folies avec de la motorisation traditionnelle, puis des folies avec de l'électrique, comme le témoigne le nouveau Hummer, la Cadillac Lyriq qui s'en vient. Bon, alors ça va être... C'est un beau contraste entre les deux, mais pour les amateurs de performance, je pense que Chevrolet s'est gâté, là.
Oui, et, on est, et avec la Corvette Z06, on est vraiment du côté traditionnel de l'approche. On a un V8... atmosphérique, hein, de 5,5 litres. Il y avait eu certaines rumeurs qui faisaient état de l'ajout de l'hybridation ou même de l'ajout de l'électricité, peut-être d'un surcompresseur volumétrique. Bref, tout était possible. Puis finalement, non, on y va très traditionnel avec un V8 atmosphérique. Et on a une puissance de 670 chevaux, ce qui est très impressionnant. Là.
Ce qui est très impressionnant parce qu'on se souvient que ce moteur 5,5 litres-là devait initialement faire ses premiers pas sous le capot d'une CT6 qui aurait été un moteur CT6.
Ça n'a pas duré longtemps, hein, ça, la
non.
CT6.
CT6 à moteur 5,5 litres biturbo, c'est ce qui était supposé débarquer. Finalement, ça n'a jamais vu le jour. Le bloc est demeuré. Visiblement, on a continué à travailler sur ce projet-là.
Parce que le potentiel était là, là.
Oh, oui, c'est ça. Alors là, on a dévoilé cette voiture-là, 0,60 000 à l'heure en 2,6 secondes. Les voies sont plus larges, il y a des modes de conduite, tout ce que vous pouvez imaginer de voiture de performance.
Et c'est un moteur qui révolutionne très haut. Donc
8400 tours minute la ligne rouge.
Donc on peut s'imaginer que la sonorité va être au rendez-vous et qu'encore là, ça va être un plaisir pour tous les sens, littéralement. Là.
Bon, là, évidemment... On parle de cette Corvette-là comme d'une voiture qui nous semble presque imaginaire parce que on a de la misère à mettre la main sur une Corvette Stingray ces
oui.
temps-ci. Quelqu'un qui veut se commander une Corvette Stingray, faut s'armer de patience. Là. On parle de presque 2 ans, parfois même plus, enfin bref. Et pour y voir plus clair dans tout ça, puis aussi pour parler du marché de la Corvette, bien, quoi de mieux que de parler à quelqu'un qui vend des Corvettes, qui est spécialisé dans ce domaine-là. On est avec Pierre-Luc Mercier, qui est conseiller aux ventes et expert Corvette pour Paillé Chevrolet à Berthierville. Salut Pierre-Luc.
Bonjour.
Bonjour les amis.
Bon, alors là, je veux qu'on parle d'abord du marché de la Corvette, parce que je sais que vous avez commencé à vendre des Corvettes neuves à l'arrivée de la 7e génération, mais Absolument. Vous aviez déjà un bassin de clients pour ça. D'abord, peut-être faut expliquer pourquoi avant vous vendiez pas de Corvette là.
Tout simplement parce que c'est une bannière qu'il fallait s'acquérir. Dans le temps, je vous dirais qu'on était beaucoup plus dans le usager que dans le neuf. Mon propriétaire importait énormément de véhicules. Donc, quand est arrivée la nouvelle génération, la C7 en 2014, la croisée des chemins, c'est ça aussi pour notre image d'entreprise. On a plus délaissé le neuf pour plus délaisser le usager pour embarquer davantage dans le neuf. Donc, à cet effet-là, on a acheté la bannière Corvette. On a pu commencer à en détailler.
Et qu'est-ce que ça représentait comme investissement pour le concessionnaire d'obtenir cette bannière-là? J'imagine qu'il devait y avoir là, une baie de service réservée peut-être à la Corvette, du personnel qualifié aux ventes, en l'occurrence toi.
C'est sûr qu'il y avait un coût à la bannière rattaché. Le montant, par exemple, je ne l'ai pas exactement, mais il y avait un coût rattaché à la bannière. Ensuite de ça, il fallait former un expert au niveau des ventes, il fallait former un expert au niveau du service, il fallait former un expert au niveau de la mécanique pour justement qu'on ait juste un créneau de personnes qui travaillent sur ce type de véhicule-là.
Bon, la clientèle qui se procure une Corvette, on a l'impression que pendant très longtemps, ça a été une clientèle de personnes plus âgées, des gens qui vendaient, par exemple, une Harley-Davidson puis qui décidaient d'aller se payer un jouet, mais jamais des amateurs de vraie conduite sportive ou très rarement du moins, quelqu'un qui aurait considéré, par exemple, une 911 ou une Corvette. T'sais, on voyait pas ce clash-là. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu moins vrai. Comment tu as vu ça évoluer, toi, la clientèle de la Corvette depuis que tu en vends?
Oui, c'est sûr qu'à partir de la 7e génération, quand le lancement était fait, ben, l'engouement au niveau de la Corvette a changé également. C'est sûr qu'on passait de la C6 à la C7. Ça a vraiment tout chamboulé le marché au niveau de GM. Moi, je reprenais rarement des véhicules de type européen ou autre marque. Puis depuis qu'on est arrivé avec la nouvelle C7, c'est incroyable. Là, je reprends des Porsche, je reprends des Audi. Il n'y a pas de véhicule, à vrai dire, que j'ai pas vraiment repris sur ce type de véhicule-là. Puis autant des passionnés de course que juste des personnes qui adorent l'auto, qui la trouvent tout simplement belle, puis qui veulent l'acquérir.
OK. Fait que c'est vraiment... Puis est-ce que tu as vu une clientèle se rajeunir massivement ou c'est demeuré une clientèle assez âgée?
Ben c'est sûr que oui, dans les débuts, j'avais beaucoup, beaucoup de baby boomers. Par la suite, j'ai eu du 40 ans, 60 ans. Puis là, ben j'ai même des clients de mon âge dans la trentaine là, qui acquérissent ce type de véhicule-là.
OK. Fait que ça a vraiment, vraiment changé. Là, évidemment, la Corvette, lorsqu'elle est sortie, moi, je me souviens, un ami s'était payé ça, 74 000 $ une Corvette 2LT avec l'ensemble... C7, avec l'ensemble Z51. Puis, les Corvettes, à cette époque-là, c'était des voitures qui étaient quand même assez chères, même la génération, la C6. Même que la C7 représentait peut-être même une aubaine par rapport à la C6 quand tu regardais le prix payé versus ce que tu obtenais. Puis, les Corvettes, c'était des voitures qui dépréciaient quand même à une certaine époque.
Absolument.
Là, lui a conservé sa Corvette 5 ans et l'a revendu 2000 $ de moins que ce qu'il l'avait payé après avoir roulé 85 000 km. Qu'est-ce qui explique cet engouement-là? Est-ce que la Corvette est devenue l'aubaine du siècle? Et est-ce que le fait que cette nouvelle génération-là soit rendue, soit non seulement très alléchante, mais aussi inaccessible parce qu'il n'y en a pas, est-ce que les gens se garochent sur la C7 plus qu'avant? Qu'est-ce qui explique tout ça?
Ben, je vous dirais qu'actuellement, là, j'ai tellement de gens qui ont de l'engouement pour une C8 que j'en ai plusieurs qui me disent « Ah, je vais m'acheter une C7 en attendant. » Je trouve ça très, très drôle. Les gens me disent maintenant qu'ils vont s'acheter une ancienne génération en attendant la nouvelle pour voir et se donner le goût. c'est sûr que quand la T7 aussi a été lancée, on promettait beaucoup de choses, on promettait des performances du couple. C'est quand même assez incroyable. Puis la marchandise a été livrée. C'est sûr que toutes les reviews que je regardais, ça parlait tout du meilleur qualité-prix quasiment dans les voitures de luxe et de performance. Puis elle a fait, elle a établi ses lettres de noblesse. Puis actuellement, je vous confirme que c'est vraiment le cas. Là. Au niveau qualité-prix, c'est invraisemblable. J'ai justement des clients qui ont acheté des générations 6-7, 2016, 2017, 2014, qui ont vendu ça pratiquement le prix payé. Ouais. Qui l'ont roulé exactement comme ton histoire. L'engouement est là. La C8, on a tellement d'attentes pour que les gens, souvent, ils vont contenter une ancienne génération en attendant d'avoir les nouvelles. Puis je vous dirais que autant l'ancienne que la nouvelle, les prix, c'est complètement dérisoire. Je pourrais vendre des usagers plus chers pratiquement que des neuves.
Demain matin, Pierre-Luc, si je vais te voir en concession et j'inscris mon nom sur la liste d'attente, je dois m'attendre, oui. Ben, à attendre combien de temps, justement?
Ben, écoutez, là, actuellement, j'ai 80 noms pour la C8 standard, j'ai 40 noms pour la Z06, puis j'ai 3 noms pour la Zora, qui est même pas encore annoncée. Donc, c'est sûr que si on se fie à mon volume de vente, l'année passée, j'en ai vendu 28, cette année, j'en ai vendu 31, quand je dis j'en ai, je parle du concessionnaire.
Ouais.
C'est sûr qu'en moyenne, là, si je fais mon prorata, j'ai 2 à 3 ans d'attente. Tout dépendant si GM vont m'en allouer plus, parce que GM actuellement, c'est vraiment plus que t'en vends, plus que t'en donnes. Ça y va avec le volume.
Donc, on peut s'attendre à ce que ton allocation pour 2022 soit peut-être un peu meilleure, à 35, peut-être 40 unités.
Absolument.
Mais tu ne seras pas capable de combler la demande complète, là.
Non, c'est sûr, il n'aurait pas 80 d'un coup.
Et comment on arrive à composer avec la déception de cette clientèle-là qui a de l'argent, qui lui brûle au bout des doigts, qui a envie d'avoir un jouet, d'avoir une voiture sportive entre les mains? Comment tu les retiens de ne pas aller, par exemple, acheter une Porsche 718 Cayman, là?
La vraie réponse, c'est que souvent, les gens qui vont m'appeler pour une Corvette, là, c'est qu'ils veulent ce véhicule-là. Ils n'ont pas d'obstacle avec le temps. Justement, comme tu m'as dit, l'argent, ils l'ont. C'est pas un problème. Ils veulent vraiment avoir ce véhicule-là, puis c'est ça qu'ils vont attendre. Donc, j'ai vraiment pas de problème à les faire patienter. C'est sûr que quand je prendrai un client qui est pas au courant du marché, mais pas du tout, qui sait même pas qu'il y aurait de l'attente, lui qui pensait qu'il m'appelle puis il l'aurait dans 3-4 mois, OK, lui, il y a des chances qu'on l'échappe, qu'il aille vers un autre marque. Mais si on regarde un client qui est au courant de la situation, qui sait c'est quoi le marché, qui veut avoir une Corvette, le temps, là, c'est vraiment pas un facteur qui va le déranger.
La liste d'attente, la fameuse liste d'attente, parce que les gens se disent, ben oui, ils mettent mon nom sur une liste d'attente, mais on sait bien, un gars qui a acheté 4-5 Silverado dans les 10 dernières années, ben il est peut-être privilégié ou il va peut-être mettre leur nom en haut de la liste versus un client qui n'est pas un bon client du constructeur. Cette fameuse liste-là, d'abord, est-ce qu'elle est publique? Est-ce qu'elle est visible? Est-ce que les gens peuvent s'y référer? Parce que on a l'impression dans certains cas que c'est une liste hypothétique qui existe quelque part, mais qui nous dit qu'elle est vraiment respectée?
Ben nous, simplement, que quand le client nous appelle, on fait le processus pour réserver le véhicule, on lui attribue son rôle, son rang qu'on veut. Donc, au cours des commandes, au fur et à mesure que GM nous alloue des véhicules, qu'on commande des véhicules, ben nous, on contacte nos clients. Moi, je suis quand même très souvent en contact avec mes clients. Donc, je les tiens au courant du processus dans l'avancement. Pour en revenir avec la question d'un client fidèle à la maison, c'est sûr que mes clients fidèles à la maison sont toujours en contact avec moi. Fait qu'aussitôt qu'ils savent qu'il y a peut-être un soupçon d'une Corvette qui va arriver, ben je lui dis tout de suite, là, prévois de te mettre sur la liste d'attente. Fait que je voudrais, c'est plus le rôle du conseiller que de l'entreprise, de s'occuper de ses clients, de s'assurer qu'ils soient bien servis, parce que malheureusement, j'aurais un de mes clients qui en aurait 12 véhicules avec moi, il voudrait se mettre sur la liste d'attente puis être priorisé. Ben malheureusement, il y aura même pas une somme d'argent qui ajouterait un tour de rôle. Mon patron, il est très, très, très clair à cet effet-là. Les clients ont déjà assez d'attente des années. On n'ira pas jouer en plus d'un tour de rôle pour pénaliser des gens parce que d'autres gens ont plus de pouvoir, si on veut.
Je fais une mise en contexte. Disons que tu as livré cette année une Corvette C8 à un de tes clients qui décide de la changer pour une décapotable. Lui il dit ben écoute, je vais mettre mon nom pour une décapotable. Est-ce qu'il se retrouve au bas de la liste ou est-ce qu'il est privilégié parce qu'il y en a déjà une que tu pourrais reprendre en échange et revendre à quelqu'un d'autre qui attend après une C8?
Dans ce côté-là, on privilégierait même pas le client qui en a déjà une, tout simplement parce qu'il est excessivement chanceux d'en avoir une actuellement. Deuxième des choses, sont usagers. Je leur vends même pas. Nous, les usagers, on les détaille pas au détail parce que je sais pas si vous avez vu les prix, là, c'est complètement dérisoire, là, c'est plus cher que des PDSF 9. Donc, à cet effet-là, bon, mon patron, il veut même pas qu'on s'embarque là-dedans. Ça serait un petit peu manquer de respect à l'image du véhicule, puis au client aussi, qu'on va y vendre le véhicule un 30-40 000 de plus que le PDSF original avec un auto qui a du millage puis un an. Donc, à cet effet-là, nous, on les exporte tous. Fait que, on n'a aucun problème avec les usagers. Mais
ah,
c'est
ouais,
sûr que mon client, qui va avoir un convertible, malheureusement, on rembarque sur la liste d'attente, puis il faut attendre.
Je me mets dans la peau d'un consommateur qui veut s'acheter une Corvette, qui est déterminé à en avoir une. Est-ce que de donner son nom dans deux, trois, peut-être quatre concessions pour faire partie de ces listes-là, est-ce que ça peut être une stratégie intéressante où on fait grandir l'offre, la demande artificiellement? Oui, c'est ça. Est-ce qu'on devient nuisible ou ça peut être une bonne idée pour obtenir son véhicule peut-être un peu plus rapidement?
C'est sûr que mes clients, moi, que je connais, je le sais qu'ils le font pas. Le client qui m'appelle ici, qui va avoir des informations qu'on me transfère, que je lui explique toute la situation des Corvettes, s'il me l'a pas dit, qu'il a mis son nom sur un autre tour de rôle, j'en ai aucune idée. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'admettons, sur mes 80 noms, je calcule que j'en ai à peu près 10 qui sont non existants, que je vais les appeler, que peut-être qu'ils ont changé pour un autre véhicule, ou peut-être que leur concessionnaire original les a rappelés pour dire, écoute, je suis rendu à ton tour de rôle. Mais moi, en 2020, il y a un de mes clients qui avait mis son tour de rôle en même temps qu'un de ses amis dans un autre concessionnaire. Puis moi, il était le troisième à l'avoir. Puis encore cette année, ben son ami l'a pas. Puis le concessionnaire l'a jamais rappelé pour lui dire, écoute, t'es éventuellement le prochain. Il était cinquième. Puis chez nous, il était onzième. Donc, à cet effet-là, ça va vraiment avec le volume.
Puis ça répond vraiment à la question qu'on avait un peu plus tôt, c'est-à-dire qu'il en tient du conseiller puis du sérieux du concessionnaire de respecter une liste. Ce n'est pas quelque chose
Absolument. Que
GM va répertorier, là.
Pas du tout, non.
OK, c'est ça. Bon, là, évidemment, tu la connais, la nouvelle C8. C'était une voiture que tu as vue aller. Effectivement, tu le mentionnais, 30, 40, 50 000 $ de plus que le PDSF. On voit ça chez des chez des revendeurs. Comment est-ce que tu t'assures que les gens qui se procurent des Corvettes chez vous ne le font pas juste pour faire des flips? Parce qu'il y a un marché incroyable pour ça en ce moment, là.
Oui, ça, c'est la beauté de cette histoire-là. Les listes GM n'ont aucun contrôle là-dessus. Par contre, sur les clients qui sont récalcitrants, sur les clients qui ne respectent pas les normes de GM, nous, quand on vend une Corvette, c'est très important. C'est un an, 12 mois et 12 000 km. Non, un ou l'autre, un et l'autre. Il faut absolument les deux. Donc, à cet effet-là, si moi, mon client décide de garder son auto 6 mois, il fait tout l'été, à l'automne, il décide, je vends mon char, puis je vais faire 40 000, puis j'ai profité de ma belle Corvette. Malheureusement, il peut le faire. Ça, c'est sûr qu'il peut le faire. Mais même qu'il rappelle dans un concessionnaire GM pour recommander une Corvette, c'est dommage, mais c'est terminé. Son nom, il va être barré dans le système. Tout ce qui va être transigé à l'adresse domiciliaire de ce client-là va être mort. Fait que s'il essaie, mettons, avec sa femme, avec son enfant ou lui-même, ça ne fonctionnera pas. Je ne peux pas y commander de véhicule. GM ne voudra pas lui livrer.
C'est fou parce qu'on a l'impression qu'il y a quelques années seulement, c'était juste chez Ferrari qu'on entendait des histoires comme ça. Là, c'est rendu...
Chez Chevrolet.
Chez Chevrolet, puis pas juste chez Chevrolet. C'est vrai pour d'autres marques aussi. C'est quand même incroyable.
Dis-nous, Pierre-Luc, est-ce que tu serais prêt à dire que la Corvette, son prix n'est pas assez élevé?
Ah, ça, c'est quasiment me tirer dans le pied. La réponse est oui, c'est sûr, parce que, écoutez, si je me compare, je vous l'avais dit, avec des Porsche, des Audi, on peut aller dans le Jaguar, on peut aller dans le Mercedes, pour qu'est-ce que GM offre, c'est invraisemblable. Là, on va avoir souvent ça dans le 40-50 000 de plus dans d'autres marques, puis souvent, on va manquer certaines options. Donc, à cet effet-là, je dirais que GM font une très, très belle fleur en vendant ce véhicule-là à ce prix-là. C'est sûr que là, les gens qui vendent, il y a des gens qui vont me dire une fleur à 70 000, je suis pas d'accord, mais quand même, si on pense à vraiment le véhicule uniquement, là, c'est tout un bolide pour le prix.
Puis tu me parles justement de 70 000. On s'entend que la moyenne des Corvettes que tu vends sont pas 70 000. D'abord, en as-tu vendu une seule qui était une de base, pas d'option?
Oui, j'en ai vendu une, puis à grande déception d'un de mes clients, que lui, j'y vendais une 3 LT, deux autos complètement identiques, une un LT rouge, pas Z51, puis une 3LT Z51 rouge. Les deux étaient à côté de l'autre, puis mon client m'a regardé, m'a dit, Pierre-Luc, honnêtement, à part les mags, là, si je connaissais pas les Corvettes, je vois aucune différence. Là, j'ai dit, ouais, c'est sûr, là, tes entrées d'air, là, t'es sûr que le groupe Z51, il y en a pas beaucoup, mais on parlait d'un écart de 32 000 entre les deux prix vite, puis on regardait les autos, là, puis seul un connaisseur quand même pas pire va voir les différences, parce que quelqu'un qui connaît pas ça du tout va penser que c'est le même char qui vient de passer deux fois.
Ouais. Donc, puis tu dirais que la moyenne des options qui sont commandées, c'est quoi? Ça, on parle d'un prix de quoi? D'à peu près 85 000?
Oui, absolument. Moi, je vous dirais entre 85-95. La première année, c'est fou. J'ai quasiment tout commandé full. Ça a tout été des chars entre 110-125. La deuxième année, le monde, ils ont plus été pour la 2LT, tout simplement, parce que si les gens veulent pas faire trop de configuration de couleur intérieure, ben aller vers la 3LT, souvent, ça donne absolument rien, parce que pour la différence de 10 000 qu'on va y avoir, si tu veux pas avoir du deux tons à l'intérieur, ben il va être noir pareil. Fait que c'est sûr que oui, la qualité du cuir va changer, mais des fois, je m'excuse, là, les gens sont prêts à laisser un peu aller la qualité du cuir, mais faut avoir absolument tout ce qu'ils veulent, puis des fois payer 10 000 de moins.
Est-ce que maintenant, parce que là, je veux parler de la Z06 en terminant.
Oui.
Cette voiture-là, là, comment ça fonctionne? Oui. Quelqu'un qui veut en avoir une, as-tu beaucoup de dépôts? Y as-tu beaucoup d'attentes? Qu'est-ce que tu anticipes comme quantité que tu risques de recevoir? Ça va ressembler à quoi selon toi?
Ben, c'est embêtant parce que dans l'ancienne génération, au total, on en avait reçu 14. Donc, tu sais, si je me dis, admettons, dans cette génération actuelle, j'en ai...
Quand tu dis tu n'as reçu 14, c'est 14 oui. Sur toutes les années?
Oui, sur toutes mes années.
De, c'est 2000, pas beaucoup, là.
De 2014 à 2009, j'ai reçu une seule ZR1.
Une seule ZR1, OK.
Oui, absolument.
Okay.
Fait que je me dis que si je regarde l'année qui s'en vient, je prévois en avoir en 14 et 18, j'en ai déjà 30 de réservés, donc je planifie faire décevoir la moitié de mes commandes.
Aïe, 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 hein? Ça, c'est pas drôle. Mm-hmm. Puis là, quelqu'un qui veut obtenir une Z06, y a-tu des conditions particulières? Parce qu'on entendait sur les réseaux sociaux là, rapidement que ça prenait des dépôts de 25, 50 000 $ pour en réserver une, des trucs comme ça. On a vu ça aller, là.
De notre côté, nous, là, quand on va avoir les allocations, on va appeler les clients et on va se mettre en contact. Parce que de là à dire, on va tout de suite commencer à prendre des dépôts de 10-15 000 $ sur un auto qu'on peut pas commander, on n'est pas super à l'aise avec ça. On se fait une liste d'attente puis on appelle par la suite. C'est sûr que oui, un dépôt va avoir le sentiment d'attaché, mais tout dépôt est remboursable. Donc à cet effet-là, tu sais, des fois, laisser un dépôt, c'est juste prouver que tu as de l'argent. Là.
Ouais, ouais.
Pas dire nécessairement que...
Bon, en terminant, qu'est-ce que tu conduis comme Corvette, toi, Pierre-Luc?
Malheureusement, je n'en conduis aucune parce qu'à 32 ans, les assurances ils m'attendent, mais non, honnêtement, si j'arrête en chauffer une, ça serait une 2LT.
Une 2LT neuve, là?
Oui. Okay. Oui, absolument. Une 2.
C'est un bel équilibre.
Parce que la C8. Oui, absolument.
Fait que tu resteras à en intercepter une avant que M. Payet décide de la vendre aux États-Unis avec un petit 40 000 de profit. Mais ça, je te laisse discuter avec lui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin.
Ça fait plaisir, les amis.
OK, merci bye
beaucoup,
bye.
Au revoir.
Au revoir, bonne journée, merci.
Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5 000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Antoine, concluons avec quelques questions du public. On a Marie-Claude qui nous écrit qu'avec le prix actuel du litre d'essence, elle est tentée de se procurer un véhicule électrique. Je pense que c'est le cas, d'ailleurs.
Ah oui, j'en suis vraiment surpris.
De bon nombre de consommateurs. Elle s'interroge sur l'entretien d'un tel véhicule. À quoi ressemble-t-il globalement? Est-il plus ou moins coûteux d'entretenir un véhicule à essence versus un véhicule électrique?
Très intéressant comme question. J'ai présenté un peu plus tôt cette semaine sur Salut Bonjour, un comparatif de coût de revient sur 100 000 km entre le Hyundai Kona à essence versus un Kona électrique. Et là-dedans, bon, évidemment, la conclusion au bout du terme, c'est que considérant que le Kona électrique coûte 20 000 $ de plus que le Kona à essence traction identiquement équipé, mais qu'ensuite on applique un crédit gouvernemental de 13 000 une fois les taxes ajoutées. Bon, le coût de revient au bout du terme en considérant les coûts d'assurance, les coûts d'entretien, l'économie d'essence ou d'électricité, bon, etc. C'est pas dur, là. Au bout de 5 ans, ce véhicule-là, dans les deux cas, va vous coûter grosso modo 70 000 $ si vous faites 20 000 km par année. Dans les deux cas. On est à 800 $ d'écart entre à l'avantage de la version électrique au bout de 5 ans pour un Kona Preferred électrique versus un Preferred roue motrice avant 2 litres. Évidemment que je vous dirais, le Kona électrique a cet avantage d'offrir une puissance et un plaisir au volant qui est plus intéressant que la version 2 litres ordinaire, ça c'est clair. Mais parce que le Kona est beaucoup plus cher que le Kona essence, ben ça fait en sorte que le coût de revient au bout du terme est à peu près le même. Mais si vous faites un exercice de comparaison entre, par exemple, une Bolt et une Civic, vous allez voir que la Bolt, au bout de 5 ans, vous revient beaucoup moins cher que la Civic, 7 à 8 000 $ de moins en considérant le coût du carburant aujourd'hui et le coût de l'électricité aujourd'hui. Alors, ça, c'est un premier point. Maintenant, pour ce qui est de l'entretien, j'aime ça que vous posiez cette question-là parce qu'il y a de l'entretien à faire sur une voiture électrique, beaucoup plus qu'on pense.
Et on a eu une pensée magique pendant un moment là, en lien avec le véhicule électrique parce qu'on nous disait, bon, comme il n'y a pas de changement d'huile traditionnel comme sur une voiture à essence, on avait l'impression que c'était sans entretien, mais c'est vraiment pas le cas là, parce que frein, direction, suspension, tout ça demeure là.
Ben absolument. Puis là, évidemment, moi, je me suis basé sur des programmes établi par Hyundai pour l'entretien des deux véhicules, en excluant d'une part les entretiens de frein. Ça coûte entretenir sur 5 ans un Kona électrique en suivant les programmes de Hyundai de base, là, sans excès, 1990 $ taxes incluses pour l'électrique. Vous êtes à 3200 grosso modo avec la version à essence. Et à ça, vous allez ajouter des coûts d'entretien de frein pour le Kona électrique, qui vont être un peu plus chers que pour le Kona à essence, pour la simple et bonne raison que... Et ça, évidemment, ça va dépendre de comment vous conduisez votre véhicule électrique, parce que si vous n'utilisez jamais les freins, il y aura un entretien à faire sur une base un peu plus écourtée que si vous les utilisez de façon sporadique, parce qu'on peut conduire à une seule pédale, bon, avec ce genre de véhicule-là. Maintenant, il faudra remplacer les freins sur la version à essence qui va vous coûter grosso modo 1000 $ aux 4 roues au bout de 70-80 000 km, ce que vous ne ferez pas techniquement avec la version électrique. Alors là, il y a un avantage. Mais considérez que ça vous coûte là, entre 65 et 75 % du coût d'entretien d'un véhicule à essence quand même parce que, bon, vous aurez des filtres à cabine, des pneus, des essuie-glaces à remplacer, vous aurez de l'alignement à faire, des permutations de pneus de roues. Vous aurez tout ça à faire quand même. Il y a juste des vidanges d'huile que vous ne faites pas. Et sur un terme de 5 ans, ben vous n'aurez pas à remplacer, par exemple, de pièces du système d'échappement, de trucs comme ça. Là. C'est rendu beaucoup plus loin où là, il y aura de l'entretien de pièces de suspension, de direction que vous aurez à faire, mais qu'on retrouve un peu partout. Là. Les moteurs à essence, sauf peut-être dans le cas de chez Hyundai, on ne touche plus à ça parce qu'on a eu des problèmes avec le moteur 2 litres. Là, ça, c'est une autre histoire. Mais oui, il y a des coûts d'entretien associés à ça. Il faut aussi ajouter le fait que vous devrez débourser pour une borne de recharge que vous allez installer à la maison. Borne de recharge qui, installée, va vous coûter entre 800 et 1200 $ en incluant les subventions. Donc ça aussi, il faut le considérer.
Merci beaucoup, Antoine.
Plaisir.
Cube Radio.